Léa Salamé, votre invité, en plus d'apprécier Stromae, préside le groupe Les Républicains au Sénat.
Bonjour Bruno Retailleau.
Bonjour Léa Salamé.
Beaucoup de questions à vous poser ce matin, mais d'abord Leclerc, Carrefour, Auchan, presque toutes les enseignes de supermarchés ont continué à vendre des centaines de boîtes de lait Lactalis alors qu'elles savaient qu'elles étaient contaminées au salmonelle. Est-ce qu'on est face à un nouveau scandale sanitaire?
En tout cas, on a peine à croire que ça puisse se passer aujourd'hui en France au 21e siècle, en plus avec une alimentation destinée à des bébés. C'est incroyable. Alors, il y a eu d'abord pour la production une ouverture d'une information judiciaire. La justice est saisie. On va voir ce que cela va donner. Et j'imagine aussi qu'il y aura des procédures aussi pour le reste.
Mais quelle doit être la réponse politique?
La réponse politique, c'est de veiller à ce que les procédures soient respectées, d'installer des contrôles, de vrais contrôles, et de faire en sorte que la chaîne, toute la chaîne, de la production à la distribution, puisse avoir des évaluations. Et pourtant, en France, on passe pour être un pays contrôlé, mais il y a encore des trous dans la raquette. Évidemment, il faut les boucher vite, le plus vite possible sera le mieux.
Vous serez demain à Matignon, reçu avec d'autres élus de l'Ouest de la France au sujet de Notre-Dame-des-Landes. Édouard Philippe a déjà prévenu qu'il assumera une décision difficile et critiquée. Qu'est-ce que vous ferez, vous? Qu'est-ce que vous direz si jamais le gouvernement décide d'abandonner la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes?
Je lui dirai que c'est l'Ouest qui est sacrifié. Et que, vous savez, on n'est pas des fanatiques de Notre-Dame-des-Landes. Si moi j'avais la certitude que Nantes Atlantique pouvait faire face à l'accroissement de trafic à l'horizon, non pas de 10 ans, et de 5 ans, de 30 à 50 ans, je signerais, je prendrais un casque et j'irais moi-même avec une pelleteuse commencer les travaux. Mais on sait parfaitement qu'il y a un problème parce que les avions survoleront toujours Nantes. On a failli avoir des gros pépins parce que les avions survolent Nantes, parce qu'il y a déjà plus de 40 000 personnes qui sont soumises au bruit et parce qu'on a la deuxième réserve ornithologique de France. Pensez-vous un instant qu'on puisse acheter 120 hectares sur des zones qui sont ultra protégées? Non, il y a un problème de courage politique. Emmanuel Macron, parce que c'est pas Édouard Philippe qui prendra la décision.
Non, c'est Emmanuel Macron.
C'est un scoop que je vous livre ce matin.
Oui,
vous êtes heureuse.
Oui,
voilà, bon,
merci pour
c'est Emmanuel Macron. Il aime l'attitude du monarque républicain. Il faut pas seulement la posture, il faut aussi le courage. Le courage d'une décision démocratique. Parce qu'en démocratie, c'est le vote et c'est le droit. 179 décisions de justice et puis aussi une consultation.
Est-ce que
ce n'est
pas le moment d'en finir une fois pour toutes?
Bien sûr, il faut en finir.
Ça fait 40 ans que ça dure,
Il faut en finir, mais sans sacrifier le Grand Ouest. Vous savez, cette année, l'année 2017, a vu le chiffre de 4 milliards de personnes qui se sont déplacées par avion. C'est extraordinaire. La mobilité consubstantielle à notre époque, à notre société. Et on voit bien, d'ailleurs, dans la fameuse médiation, qui est une farce, ils disent, il y a un moment donné dans le rapport, ils le reconnaissent eux-mêmes, que Nantes Atlantique ne peut pas faire face à l'avenir. Parce qu'ils disent, mais ça serait quand même plus prudent de garder la réserve foncière sur Notre-Dame-des-Landes, parce qu'après 2030-2040, on n'est pas sûr. C'est en plus un rapport qui est truffé d'erreurs.
Bruno Retailleau, vous pensez encore pouvoir le convaincre ou vous avez accepté?
J'irai le voir, il m'invite. Moi, je suis un élu républicain. Ouais. Il est le premier ministre.
Vous avez encore espoir ou vous avez l'impression que c'est tranché, plié et que ça ne se fera pas?
Je pense que depuis le départ, depuis qu'on a nommé dans les trois médiateurs deux qui avaient un parti pris contre Notre-Dame-des-Landes, je pense que tout ça ressemble à un habillage au conditionnement de l'opinion publique. Mais je verrai bien.
Vous rentrez d'un voyage en Irak et au Liban à la rencontre notamment des chrétiens d'Orient. Les persécutions de chrétiens d'Orient sont en hausse pour la 5e année consécutive malgré le recul de l'État islamique. Est-ce que vous l'avez constaté sur place?
Alors, ce que j'ai constaté sur place, c'est que il y a des signes d'espoir quand même, parce que Daesh, l'État islamique, a été vaincu dans sa forme territoriale. Mais c'est une idéologie. Et ce que j'ai vu, parce que je suis allé dans la plaine de Ninive, on a tout fait pour m'empêcher d'y aller, mais j'y suis allé pour me rendre compte avec mes yeux et avec la délégation sénatoriale. Et Daesh, l'État islamique, c'est une idéologie, c'est un totalitarisme. On s'attaque aux biens, on détruit le patrimoine culturel et on dénie l'humanité à des gens. Les chrétiens ont été persécutés. Mais il y a eu un génocide. Pas des chrétiens.
Génocide de qui?
Des yézidis. Des yézidis. J'ai rencontré la communauté yézidi, j'ai rencontré la seule députée yézidi au Parlement irakien, mais les témoignages, je vous assure, sont bouleversants.
Oui, le mot génocide est fort quand même.
Mais le mot génocide, c'est une catégorie juridique de droit international que je connais et je pense qu'il répond. Il y a aujourd'hui déjà plus de 12 000 tués qui ont été retrouvés, il y a 7 000 disparus, il y a encore plus de 3 000 à 3 500 femmes et jeunes filles qui sont des esclaves sexuels. La communauté yézidi, voilà, donc bien sûr les chrétiens ont été et sont persécutés, mais cette communauté a fait l'objet au moins d'un massacre de masse, et pour moi ça correspond aussi au terme de génocide. Il faudra d'ailleurs, la grande question de la reconstruction et de la réconciliation de l'Irak, c'est la vérité, c'est la justice, toutes les sociétés fracturées, l'apartheid en Afrique du Sud, le Rwanda, etc.
ont une commission réconciliation.
Voilà, absolument. Soit des éléments, enfin une dimension internationale, soit une dimension nationale. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a quand même des signes d'espoir. À Karakoche, ville essentiellement chrétienne, la moitié de la population est revenue et la construction est en route.
L'Église catholique a pris position hier contre la circulaire Colomb qui demande de recenser les migrants dans les centres d'accueil. L'Église demande la sanctuarisation des centres d'hébergement. Est-ce qu'elle a raison, l'Église ?
Non, mais l'Église, c'est comme le pape. Je pense que l'Église est dans sa fonction. Le pape est dans sa fonction.
Et vous, vous dites quoi ?
Lorsque... Ah, moi, je dis que y a une question d'ordre public. Et je pense qu'un État, comme toutes les grandes démocraties au monde, doit, non, a le droit, mais aussi a le devoir de lutter contre l'immigration illégale. Il faut mettre en place un certain nombre d'outils. Ces outils, on va voir, moi je ne connais pas le texte qui va nous être présenté.
Enfin, vous, on a déjà les grandes lignes à peu près.
Oui, on a les grandes lignes, mais avec Emmanuel Macron, c'est toujours parole forte et acte faible, y compris d'ailleurs en économie. Ce que je pense, malgré tout, c'est que, on voit bien d'ailleurs dans le budget, il y a une baisse des crédits pour la lutte contre l'immigration irrégulière. Donc, bien sûr qu'il faut accueillir, parce qu'on a une tradition. Le droit d'asile, c'est un droit qui est sacré.
Mais c'est ce que dit le projet de loi, mieux accueillir les réfugiés politiques et mieux expulser les autres, les réfugiés économiques.
Ah oui, c'est ce que dit, mais on verra très facilement et très très vite où il place le curseur, ce projet de loi. Pour le moment, ce que je dis, c'est que dans ce que je constate sur le budget de l'année 2018, c'est qu'il y a moins d'argent pour, notamment sur les centres de rétention, il y a un problème. Il y a moindre capacité de financement et il y a moins d'argent pour lutter contre l'immigration clandestine.
Petite question, pendant que vous étiez au Liban, beaucoup de réactions sur une tribune signée par Catherine Deneuve notamment et 100 autres femmes. Nadine Morano de votre parti revendique le droit, je cite, d'être opportunée, parce que ça peut déboucher sur de belles histoires. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non,
elle dit pas opportuné, elle dit opportuné. Ouais,
je n'en pense rien du tout. Enfin, voilà, je veux dire que faisons la séparation. On est en France et tout prend des proportions. La tribune, je ne l'ai pas lue, j'étais en Irak. Voilà, où j'étais préoccupé par des gens, des populations qui sont massacrées, des femmes qui sont esclaves sexuelles. Bon, maintenant, on doit condamner de façon la plus ferme possible toutes les atteintes à la dignité des femmes, mais en même temps, la galanterie, la courtoisie, et même la drague quand ça reste dans des conditions, je veux dire, de respect, voilà, c'est aussi notre civilisation. Donc, de grâce, faisons attention, c'est exactement l'opération Balance ton port. Bien sûr qu'il faut dénoncer, mais le grand déversoir des humeurs qu'est Twitter ou que sont les réseaux ne doivent pas se transformer en tribunaux. Voilà, c'est tout. Il y a donc une forme de mesure, une forme de bon sens.
Merci Bruno Retailleau. Belle journée.
Merci à tous les deux, Léa. On se retrouve évidemment à 8h40 avec notre invité, 7h58 sur Inter.